temps, contre-temps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Canal Academy et de son émission Temps contre temps. Temps contre temps qui se décline sous deux formules. Un concept qui vous place à l'écoute d'un dialogue entre étudiants et académiciens, ou alors une émission portrait à laquelle nous vous invitons d'assister aujourd'hui en compagnie de Michel Albert, l'actuel président de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Albert, bonjour.
Bonjour.
Votre cursus, diplômé donc de l'Institut d'études politiques, docteur S sciences économiques, ancien élève de l'École nationale d'administration. Vous êtes ensuite administrateur de la Banque européenne d'investissement à Bruxelles, ainsi que directeur de la structure et du développement économique à la Commission de la Communauté économique européenne. Vous jouez donc un rôle discret, mais essentiel dans la construction européenne. Après un parcours dans la presse, dans la finance, votre expérience personnelle riche vous conduit alors au plan, comme commissaire adjoint au plan, puis comme commissaire général au plan. De 82 à 94, vous êtes président du groupe Assurance Générale de France. Et enfin, de 1994 à 2003, vous avez été membre du Conseil pour la politique monétaire de la Banque de France. C'est peut-être ainsi que la mondialisation amorale héritée du XXe siècle se moralisera au XXIe siècle. Telle est du moins notre foi dans ce siècle. C'est ainsi que se termine, Michel Albert, l'avant-propos de votre ouvrage coécrit avec Jean Boissonnat et Michel Cantu. C'est une profession de foi par rapport au siècle, aux décennies futures.
Oui, c'est un livre que nous avons écrit tous les trois. Michel Cantu, qui est très connu comme ancien directeur général du Fonds monétaire international, n'est-ce pas ? Jean Boissonnat, qui est très connu pour avoir été le plus grand éditorialiste économique de la presse et de la radio française pendant de très nombreuses années. Et puis moi-même, nous avions décidé au début du siècle, nous avions décidé en 2001, de réfléchir ensemble à ce qui, pour nous, pouvait nous intéresser le plus dans la nouvelle aventure du nouveau siècle. Et ça a été le livre que vous venez de citer, qui s'appelle « Notre foi dans ce siècle ».
Par rapport donc à cette Europe, elle ne pourrait plus être qu'un patchwork de vieilles nations querelleuses et déclinantes. Elle pourrait bien devenir un grand laboratoire de l'avenir. Et vous nous décrivez ce grand laboratoire de l'avenir, porteur de tant d'espérances.
Ah ben oui, voyez-vous, parce qu'il faut bien comprendre que dans le monde, vous avez aujourd'hui trois grandes sortes de pays. Vous avez les pays qui sont en plein essor, en pleine émergence, la Chine et l'Inde, mais ça, c'est pas notre monde à nous. Vous avez les États-Unis d'Amérique et puis vous avez l'Europe. Et toute la question est de savoir si les États-Unis d'Amérique vont imposer leur modèle, vont être en quelque sorte comme le rouleau compresseur culturel de l'Europe, ou si au contraire, nous saurons nous unir d'une manière suffisamment efficace pour être des partenaires de qualité pour les Américains et pour jouer notre rôle dans le monde.
Oui, vous écrivez toujours « En aucune région du monde, à aucun moment de l'histoire, une telle conversion pacificatrice ne s'est produite. C'est un signe d'espérance dans tout ce qui dissout la haine. Cette conversion fondatrice de l'Union européenne est un événement historique fondamental. »
Voilà, oui. Il faut bien voir à quoi nous faisons allusion. Nous faisons allusion à la création de la construction européenne à partir de 1950. 1950, c'est 5 ans. Après la fin de la guerre, on est encore ruiné et dans une situation de très grand antagonisme entre les pays vainqueurs et les pays vaincus. Et c'est à ce moment-là que, au lieu de continuer à nous opposer les uns les autres, à l'initiative d'un Français Robert Schuman, a été créée la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui avait pour objet de mettre ensemble des richesses, des efforts, des hommes, des énergies, afin de contribuer au développement économique et de cesser de faire ce qu'on avait toujours fait dans l'histoire auparavant, à savoir que le vainqueur essayait d'exploiter au maximum le vaincu. En l'occurrence, le vaincu, c'était l'Allemagne. Eh bien, le geste historique, incomparable, sans précédent de Schuman a été de tendre la main au vaincu afin de se relever ensemble, afin d'être capable ensemble de faire quelque chose d'exemplaire. D'où le mot laboratoire que vous avez employé.
Et aujourd'hui, avec toutes les étapes franchies par l'Europe, vous dites que l'Europe voudrait concilier trois exigences, les trois grandes exigences, cohésion sociale, économie de marché et démocratie. D'où ce titre d'utile laboratoire à l'usage du monde.
Oui, vous voyez bien que parmi les grands pays qui ont réussi leur parcours et qui sont devenus des démocraties, vous en avez qui sont de pures économies de marché et par conséquent sociétés dans lesquelles la solidarité est très réduite. Pensez concrètement, par exemple, qu'aux États-Unis, et sur 280 millions d'habitants à peu près, il y en a 40 qui n'ont aucune assurance maladie. Chez nous, en Europe, nous avons la démocratie. Nous avons l'économie de marché, car seule l'économie de marché permet de fabriquer des richesses et par conséquent des ressources pour la consommation et pour la redistribution. Et puis, nous avons, nous, un système de protection sociale, de relations sociales dont nous pouvons, je crois, être fiers.
Alors, votre question, votre préoccupation, quel modèle d'entreprise pour un développement durable?
Oui, eh bien, pour un développement durable, il faut des modèles d'entreprise qui ne soient pas uniquement concentrés sur leur rentabilité à court terme au détriment de l'environnement, au détriment de leurs clients, de leurs fournisseurs et de leur personnel, mais des entreprises qui aient la possibilité de travailler à moyen long terme dans un essai de conciliation entre les intérêts, bien sûr, du capital, bien sûr des actionnaires, c'est indispensable, mais aussi des intérêts du personnel, des intérêts des clients et des intérêts des fournisseurs, sans parler de l'environnement physique et social.
Pour une meilleure répartition des productions et des richesses, 2005 sera baptisé l'année de la microfinance. Pensez-vous que ce nouveau modèle de capitalisme plus humain pourrait être une solution?
Oui, alors je pense que vous suggérez qu'il s'agit du microcrédit. On ne dit pas microfinance parce que justement, le mot finance est un petit peu étranger à cette notion-là. Non, ce qui se passe, c'est que on a vu qu'à côté des grands circuits de la distribution de l'argent, qui sont des circuits de caractère financier, assurés soit par intermédiation institutionnelle des banques, soit par la bourse. À côté de cela, pour des micro-entreprises, on se rend compte que des expériences de micro-crédit permettent à la fois un progrès économique, un progrès de la créativité, de l'invention, de la réparation et donc du bien-être, et en même temps un bon fonctionnement financier de ces institutions de crédit, parce que les petites gens sont des gens honnêtes. Quand des petites gens ont emprunté de l'argent, et à 95%, elles le rendent. Tenez, nous étions tout à l'heure à l'Académie. Nous étions à notre déjeuner mensuel. Nous déjeunons ensemble pour préparer notre travail une fois par mois. Nous étions avec monsieur Alain Mérieux. Et Alain Mérieux vient avec sa famille, avec ses fils et son épouse, de créer une fondation qui est gérée par l'Institut de France, gérée par l'Académie. Enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Eh bien, cette fondation va s'intéresser essentiellement à contribuer à des progrès médicaux. Mérieux, c'est la pharmacie, n'est-ce pas ? Produits médicaux, à des progrès médicaux, à des progrès sociaux, et en Afrique, à soutenir des expériences de microcrédit. Et il nous disait qu'il est allé faire un voyage en Afrique et que pour lui, ça a été très émouvant de voir que des toutes petites gens, des gens pauvres, ont un esprit de responsabilité, un esprit d'activité qui constitue les rares ferments de développement qu'il y a dans ces pays.
Donc des initiatives à soutenir et à développer.
Voilà.
En finale de votre ouvrage, coécrit avec Jean Boissonnat et Michel Candessu, « Notre foi dans ce siècle », vous écrivez Jésus n'est pas venu nous conter des fariboles, mais s'engager avec nous et donner aux hommes l'esprit. Il a accepté d'avoir besoin de nous pour parvenir à la réussite du dernier jour. C'est une véritable profession de foi.
Oui, c'est notre foi dans ce siècle, n'est-ce pas ? C'est en effet une profession de foi. Nous croyons vraiment que chaque homme est fils de Dieu, frère en Jésus-Christ, et que Dieu attend de chaque homme qu'il contribue à l'amélioration du monde, qu'il contribue à faire en sorte que les choses aillent mieux, que les gens s'entendent mieux. C'est la fameuse loi d'amour que prêche l'Évangile. Et nous croyons très fortement que avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, avec cette espèce de grande prise de conscience de l'universalité du monde, du fait que nous sommes solidaires les uns des autres, les Chinois, les Européens, les Africains et les Russes, n'est-ce pas ? Nous pensons vraiment qu'il y a là un aspect nouveau de la tâche d'évangélisation que nous avons à accomplir.
Prise de conscience de plus en plus partagée ?
De plus en plus partagée en intensité, pas forcément en nombre, mais en intensité. Et quand vous regardez ce qui se passe, par exemple, dans le mouvement des OGN, des organisations non gouvernementales, pensez à Médecins du Monde, pensez à Médecins sans frontières, eh bien, vous voyez beaucoup de personnes qui partagent cet espoir et qui ont été conduites par cet espoir à mener le genre d'expérience de créativité solidaire qui nous manque le plus.
C'est l'Ecclésia, nous tous, qui bougeons les institutions ?
Eh bien, c'est en effet, oui, alors il y a les deux, n'est-ce pas ? Les institutions influencent sur les hommes, influencent les hommes, mais les hommes influencent les institutions et c'est un mouvement dialectique.
Virginia Crespo.
De retour devant les micros de Canal Académie, en compagnie de l'actuel président de l'Académie des sciences morales et politiques, Michel Albert. Michel Albert, pour grandir, pour nous construire, nous avons besoin de confronter nos idées, de rencontrer d'autres personnes, pour parmi toutes vos rencontres, quelle est celle qui vous a le plus apporté dans votre construction personnelle, dans votre mise en route?
Oui, alors il y en a beaucoup. C'est très difficile de dire lequel, n'est-ce pas? Vous avez évidemment, j'ai eu des maîtres. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans. J'étais un petit paysan vendéen qui n'avait jamais débarqué dans la capitale. Je n'avais jamais visité Paris. Je suis entré grâce à une bourse à Sciences Po. Et figurez-vous qu'à Sciences Po, mon premier maître de conférence a été René Raymond. J'ai eu la chance d'avoir comme maître de conférence René Raymond à 18 ans. Et il a été... comme un grand frère pour moi, parce que je n'avais pas de relation, rien à Paris. Il m'a aidé, pas seulement comme maître de conférence, mais il est devenu un ami. Voilà, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et qui aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte de la vitalité intellectuelle et spirituelle de ce René Raymond qui a largement passé 80 ans, vous savez.
Vous évoquiez la Vendée. Quel souvenir gardez-vous?
C'est simple. Moi, je suis un Vendéen originaire du bocage vendéen, de ces descendants, de ces paysans qui ont fait la guerre de Vendée contre la République et qui est devenu un républicain tout simplement parce que je suis originaire de Vendée, mais tout en restant fidèle à mon pays, à ma famille qui est restée là-bas. Il se trouve que mes parents, en raison de la crise, mes parents étaient très pauvres, ils ont été forcés d'émigrer plus au sud, en Charente-Maritime, et c'est là que j'ai passé mon enfance.
Vous vous sentez plus rural ou plus citadin?
Ah ben, j'étais rural au départ, et j'espère être devenu un petit peu citadin.
Comment revisitez-vous votre enfance? Des moments protégés qui vous ont permis une construction en douceur, en harmonie, ou des moments forts qui vous ont permis justement de vous forger une armure utile à notre vie d'adulte?
Non, des moments forts. Des moments forts. J'étais donc fils d'immigrés dans un pays, dans un milieu relativement hostile, parce que les immigrés sont toujours ressentis comme différents, n'est-ce pas? Et même si on n'a pas le faciès d'un homme coloré, même si on est vendéen en Charente-Maritime, on est dans un milieu qui vous ressent comme étranger et qui par conséquent ne vous adopte pas facilement tout de suite. Et dans ce milieu où nous étions des pauvres, mes parents m'ont appris à essayer d'apprendre le goût du travail, de bien travailler, de faire de bonnes études et d'essayer de s'en sortir.
Ce sont vos parents qui vous ont transmis une foi?
Certes, mais ça n'a pas été sans quelques interruptions, sans quelques trous. Je dois dire qu'ensuite, quand je suis arrivé à Paris, outre ma bourse qui ne suffisait pas à me faire vivre, j'ai été pion dans un collège de jésuites, rue Franklin, chez les jésuites de la rue Franklin. Et j'ai été très, très impressionné par la qualité chrétienne de ces hommes. Ils ont beaucoup contribué à me stabiliser dans mon christianisme.
Comment ressentez-vous cette phrase de Lamartine? Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux.
Oui, bah écoutez, je trouve que c'est très très poétique. Je ne dirais pas que c'est un dieu tombé, je dirais que c'est un fils de Dieu dont Dieu attend qu'il soit digne du don qu'il lui a fait.
Michel Albert, par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à l'actualité de ce jour, par rapport aux décennies futures, quelles sont vos grandes révoltes?
Ah ben, mes grandes révoltes, il y en a deux. Et elles sont liées d'ailleurs toutes les deux. La première, c'est le scandale du fait que sur 6 milliards d'hommes, il y en a 1 milliard qui consomment 80% des ressources et qu'il y a à l'autre bout environ 2 milliards d'hommes qui vivent véritablement dans la misère, qui survivent d'une manière très, très douloureuse. Et cela s'explique essentiellement parce que nous manquons d'institutions communes au plan mondial, au plan planétaire, pour mener des actions de solidarité. Qu'est-ce que c'est que la solidarité ? C'est une redistribution qui consiste à prendre aux plus favorisés pour donner aux moins favorisés. Cela suppose que pour pouvoir prendre, il y ait une force institutionnelle. Il faut qu'il y ait un fisc, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des polices, il faut qu'il y ait une justice. Et au plan mondial, nous manquons de tout cela. Ce que nous avons à construire pour la solidarité, pour aller véritablement au secours de cette malheureuse Afrique, par exemple, d'une manière efficace, ce que nous avons à faire pendant le 21e siècle, c'est des institutions qui soient véritablement planétaires pour la solidarité et la paix dans le monde au 21e siècle.
C'est la mission à laquelle vous travaillez.
C'est un petit peu la mission à laquelle on travaille, parce que là-dedans, voyez-vous, j'ai l'air de me placer sur un terrain extrêmement éloigné de caractère planétaire. Mais ces gens sont à nos portes, ces gens, on les voit dans le métro. À l'intérieur cet ensemble mondial, il y a un laboratoire, nous avons déjà dit le mot tout à l'heure, il y a une zone où quelque chose de ce genre a commencé à se faire, c'est l'Europe. Regardez ce qui s'est passé à chaque fois que l'Europe s'est élargie en direction de pays moins développés. Il s'est passé que, d'une part, l'ouverture des échanges, la libération des échanges, et d'autre part, un effort fiscal de solidarité des pays riches de l'Europe au profit des pays pauvres de l'Europe, a fait le surgissement du développement économique dans ces pays, c'est-à-dire l'Espagne, vous vous en souvenez, qui était un pays pauvre il y a 30 ans et qui est maintenant un pays devenu riche. A fortiori le Portugal qui vient d'aller en finale de Coupe d'Europe de foot, mais avec une allégresse extraordinaire que probablement ce pays n'a pas connue depuis des siècles et des siècles, n'est-ce pas ? Le Portugal, aujourd'hui, le Portugal est un pays digne parce qu'il a été boosté par son appartenance à l'Europe. Et puis alors, le cas le plus flagrant pour moi, c'est l'Irlande. L'Irlande, c'était un pays désespérant il y a encore un quart de siècle et qui, depuis qu'il est entré dans l'Union européenne, a, pour les deux raisons que je vous ai dites, fait des progrès tout à fait magnifiques. Alors donc, en Europe, nous avons eu des résultats extraordinaires. Pensez aussi à la Grèce. Le fait d'ailleurs que je reviens à la Coupe d'Europe de l'Euro, que la Coupe d'Europe se soit tenue entre ces deux petits pays, ils sont tout petits, et ils étaient très pauvres. Et c'est eux qui aujourd'hui gagnent à la Coupe d'Europe. C'est sublime.
Michel Albert, le sens de la vie. Pensez-vous que nous existons sur Terre par un jeu de circonstances, qui a une finalité ou pas ?
Oh, c'est pas un jeu de circonstances. Nous existons par création divine. C'est pas le hasard des circonstances. C'est une création divine avec bien entendu des conditionnements qui existent. Mais nous sommes véritablement des êtres qui ont été créés par Dieu et à l'image de Dieu.
Un projet, donc, pour
l'homme. Et à l'égard desquels Dieu a un projet, c'est que nous ayant fait don de la vie, de nos talents, nous soyons capables de servir, d'utiliser cette vie et ces talents pour que les choses aillent mieux et pour que nous soyons dignes du don qui nous a été fait.
Que pensez-vous de cette phrase « Chaque instant de la vie est un pas vers la mort » ? Est-ce que vous le ressentez comme une angoisse, comme une question ?
Oui, bien sûr, chaque instant de la vie. Mais si on passe sa vie à considérer la vie comme ça, on est mort d'avance.
La mort, un passage ?
La mort, un passage. La mort, un passage vers la vie, avec une majuscule. De la petite vie à la grande vie.
Et en héritage, en transmission, quelle est l'idée forte que vous avez reçue, que vous vous êtes dite et que vous souhaiteriez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, aux enfants du monde entier, s'il n'y avait qu'une phrase à transmettre ?
Oui, eh bien, nous sommes fils de Dieu et frères en Jésus-Christ, et il n'y a que ça d'intéressant.
Michel Albert, l'homme est né libre, partout il est dans les fers. C'est notre ami Jean-Jacques Rousseau.
C'est
qui
ça, oui.
Comment est-ce que vous le ressentez ?
Oui, alors je pense que ça fait partie du rêve illusoire de Jean-Jacques Rousseau. L'homme naît dans... lui, il a regardé cela d'un point de vue historique. Quand il dit l'homme, c'est l'humanité en réalité, n'est-ce pas ? Il pense que l'humanité, à l'origine, était dans un paradis perdu, et que le monde, l'histoire régresse. Eh bien, je crois le contraire. Je crois que plus le temps passe, plus il y a de liberté pour les hommes et surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Je crois que c'est au contraire dans le passé que nous étions beaucoup plus assujettis que nous ne le sommes aujourd'hui. Voilà, j'ai une vue tout à fait différente de celle du cher Jean-Jacques à ce sujet.
Mais dans sa nature, l'homme est bon ou méchant ?
Oh, il est les deux. Il est les deux. Bien entendu, on ne peut pas réduire l'homme à... C'est pas tout blanc ni tout noir. Il y a les deux. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'isolement a tendance à nous rendre plutôt noirs et que, au contraire, la convivialité, les relations interpersonnelles, développement de chacun par ses contacts avec l'autre, ça a tendance plutôt à améliorer.
Albert Jacquard nous confiait que la conscience, pour lui, était un acte de contagion.
Un acte de contagion.
Oui. Que pensez-vous de la conscience ? Où se situe-t-elle ?
Attendez, vous parlez de la conscience intellectuelle, c'est-à-dire de la prise de conscience. Prise de conscience, par exemple, que nous avons bien de la chance de discuter entre nous de sujets intéressants qui devraient motiver nos auditeurs. Est-ce que c'est ça, la conscience ? Ou bien est-ce que c'est la conscience morale, la conscience du bien et du mal ? Je ne sais pas.
La conscience du bien et du mal.
Alors, il dit que la conscience du bien et du mal
est un
phénomène contagieux. Il y a du vrai là-dedans, en tout cas. Lorsque je suis dans un milieu porteur, tenez, pour, je ne veux pas faire de fleurs à mes confrères, mais vous savez, ces gens qui sont à l'Académie des sciences morales et politiques, c'est dans l'ensemble des gens que je trouve très bien. Non seulement très intelligents, ce sont des savants éminents, chacun dans leur spécialité, ce sont des gens à l'évidence de qualité. Eh bien, le fait de vivre parmi des gens de qualité a tendance à vous faire ressembler à eux par mimétisme et ça vous améliore et c'est un cercle positif qui se développe. Si au contraire, vous êtes, j'imagine, je ne suis jamais allé en prison, mais j'imagine que si on me jetait cette nuit dans une cellule de prison avec une demi-douzaine de types horribles, ça aurait tendance à me détériorer rapidement et sérieusement.
Conscience sur le plan individuel et conscience que l'on peut développer par l'esprit de fraternité et par la vie en société.
Mais tout à fait, surtout par la vie en petite société, en petit groupe. Où chaque personne est vraiment une personne unique et irremplaçable.
Un sentiment de fraternité par rapport aux membres de l'Académie des sciences morales et politiques dont vous êtes le président,
alors,
Michel Albert.
Fraternité de confraternité. Je ne veux pas, je ne suis pas linguiste, vous allez pouvoir interroger mes confrères linguistes, mais fraternité, c'est peut-être un petit peu trop familier, je dirais de confraternité.
Merci cher Président, merci d'avoir participé à cette émission de Temps contre Temps.
Merci.